Sujet FM. Bergerus 1232, processus cosmique. Le microcosmos, dans l'époque où il ne règne qu'un hymne à la gloire de l'univers, disparaît et laisse place à une époque des indéfinis de substitution. On peut toujours être un pirate, même une chimère ou encore un monstre, ou trouver la grâce dans ses mouvements, tel qu'en cuisinant, par exemple. Or, dans notre microcosmos, à chacun, chacun le sien, on n'est pas des héros. Et personne ne nous connaît. À la différence de certains films hollywoodiens qu'on peut regarder, par exemple, ou encore de bandes dessinées qu'on peut lire, ou de livres qu'on peut lire aussi. Mais rien ne nous empêche de vivre des aventures. Plutôt que de s'y substituer. On va donc maintenant pour ça, on va écouter A Rifle in His Hand par Jock Lenz et Peter Verba. Donc on a une mitraillette dans les mains et on est capable de vivre des aventures au lieu de les regarder. On peut faire plein de trucs. Il y avait un livre, là, posé dans ma bibliothèque, qui me faisait de l'œil depuis quelque temps. Et il était posé sur sa couverture, et sur le flanc, donc, était écrit Micropolitique de Rolnik et Guattari. Que j'avais lu, pas vraiment lu, quoi, j'avais survolé plutôt qu'autre chose. Et il s'agit, en quelque sorte, pas réellement, mais de la construction de soi, comment là-dessus la subjectivité réagit, ouais, elle, comment réagit-elle socialement, et un dépassement de l'au-delà est dans ce cas assez conseillé par Guattari. Et ça me plaît beaucoup parce que Guattari, j'avais lu un truc que j'ai là, je ne sais plus où il est, dans quel truc c'est, mais il parle de la radio. Et en ce moment, on y est dans la radio. Hein. Il faut absolument faire quelque chose. Hein. Mais bon, c'est pas nous qui dirigeons, qui décidons, c'est clair et net. Alors, la problématique micropolitique, selon Félix Guattari, ne se situe pas au niveau de la représentation. Comme ce qu'on vient de voir avec les aventures, là. La substitution. La problématique de la micropolitique ne se situe pas au niveau de la représentation, mais au niveau de la production de subjectivité. On doit faire les aventures au lieu de les regarder, en fait, pour ne pas rester sur son canapé. Parce que là, il paraît qu'il y a 4 heures par jour en plus que les enfants, ils ne sortent pas de chez eux. Ils sont devant les écrans. Mais moi, je vois ça avec ma fille. Elle veut rien faire. Putain, ça me prend la tête, quoi. Elle se réfère au mode d'expression qui passe non seulement par le langage, mais aussi par des niveaux sémiotiques hétérogènes, par des niveaux de sens. Plus loin, divers phénomènes religieux surviennent actuellement. Ça a été écrit quand, ce bouquin ? Bon, c'est sorti après sa mort, de toute façon. 2007, il est mort en 92, je crois, 91. Mais bon. C'est un échange, en fait, entre Rolnik, le Brésil, et Guattari, la France. Divers phénomènes religieux surviennent actuellement, comme ce qui lie le peuple afghan dans sa lutte contre l'oppresseur soviétique, ou ce qui est en train de se produire en Iran, qui ne peuvent être expliqués uniquement en termes d'idéologie. À mon avis, il s'agit de certains processus de la constitution de la subjectivité collective. On fabrique la subjectivité à l'échelle planétaire, il écrit. Alors là, on est dans les années 80, quoi. Nous sommes embarqués dans ce processus de division sociale générale de la production de subjectivité. En fait, notre subjectivité, elle est maniée, comme on a vu, je l'ai vu hier, les forces, ils font tout pour nous maîtriser, nous contrôler. Et le contrôle, bah, lui et Deleuze, notamment, ils ont écrit Mythe Platon, quoi. Lis Mythe Platon. Tu vas peut-être. Bref. Alors ensuite, là, on est en 82. Les processus de production capitaliste de la subjectivité. Et là, les processus de production capitaliste de la subjectivité, c'est exactement ce que je vous dis. Hier, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Et je vous le dis déjà depuis belle lurette, ça va faire 5 ans que je vous rabâche la même chose tous les jours, quoi. Qu'on se fait manipuler. Enfin, ça, je veux passer pour un conspirateur et tout, mais c'est pas ça. Parce que je vous dis, je vous l'ai dit aussi, il n'y a pas de conspiration vu que ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas, vu qu'on est, on sait toujours, il y a toujours eu des plus forts qui ont voulu arriver à leur fin pour maîtriser, contrôler le monde. Toute révolution au niveau macro-politique concerne aussi la production de subjectivité. La subjectivité est réduite par des agencements d'énonciation. Certaines communautés alternatives à la psychiatrie, parce que lui, il faut savoir que Félix Guattari, il était le directeur de la clinique La Borde, dans le sud de la France, et il en parle plus ou moins là-dedans, et c'était un truc pour les... c'était génial, quoi. C'était un hôpital, c'était anti-psychiatrique, quoi. C'était Ronald Lang, c'était Cooper, c'était vraiment, vraiment l'école que j'aime beaucoup aussi, moi, de mon côté, enfin... J'aime beaucoup leurs travaux à ces personnes. Certaines communautés alternatives à la psychiatrie, la sienne aussi, donc, qui était un mouvement né dans le prolongement des événements de 68 en France. Aujourd'hui, l'État finance ces groupes sans leur demander aucune contrepartie. Par exemple, de contrôle. On pourrait dire, très bien, voilà une forme de reconnaissance agréable et utile. Parce qu'en fait, ils allaient contre tout ce qui était normé, ils étaient anti-psychiatriques, quoi. C'était une nouvelle façon d'aborder la psychiatrie. Et il y a l'État qui dit, ok, on va vous donner de l'argent parce que c'est vachement bien ce que vous faites. Mais lui, non, en fait, non. Très bien, dit-il. Voilà une forme de reconnaissance agréable et utile, comme je dis. Mais de fait, peu à peu, cela finit par intégrer des groupes dans des structures beaucoup plus subtiles que celles d'un hôpital psychiatrique. C'est le groupe lui-même qui fait son autorégulation, son auto-formation et son autodiscipline. Ce serait, de mon point de vue, entièrement positif si cela pouvait déboucher sur une modification de la réalité de l'oppression psychiatrique en France. Ce qui était leur but à toutes ces personnes, tous ces professeurs, ces psychiatres. C'est d'aller de changer les choses. En vérité, le pouvoir d'État se sert de ce secteur comme d'une espèce de valve de sécurité. Les gens qui s'investissent dans ces activités ne sont absolument pas menaçants pour le pouvoir, car même s'ils ont des conceptions dissidentes, anti-psychiatrie, et des pratiques différentes, au moins jusqu'à maintenant, cela n'a pas fait qu'il y a une dialectique qui débouche sur une transformation de la situation dans le champ psychiatrique. En fait, dès que ça commence à voir que les choses pourraient changer, là, par exemple, l'anti-psychiatrie, eh bien, ils s'approprient le truc. Ils disent non, 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 tu vas venir avec nous. Et là, il est écrit aussi, dans le réseau, nous sommes arrivés à considérer qu'il était positif de poursuivre ce type d'expérimentation. Non, mais ça, c'est pas important. Mais en fait, ce qu'il écrit, c'est, moi, ce que j'ai à noter, c'est comme le christianisme, en fait, après Jésus, quoi. Au 3e siècle après Jésus-Christ, quand les religions se sont accaparées. Quand les religions se sont accaparées tous les bonnes paroles des présocratiques, des tout, mais et l'État fait la même chose dès qu'une idée leur paraît bonne et en même temps peut changer leurs habitudes, changer les plans qu'ils ont déjà, qui enfin, les plans peut-être pas fait des plans, mais changer leur façon de contrôler. Et ben non, on va s'en emparer. Et il n'y aura aucune transformation possible. Another kind of woman, another kind of love. Poor little baby, you had the misery and you fell. Poor little baby, you got a secret you can't tell.
kind of love. Another kind of woman, another kind of love.
Et donc là, on a pu écouter Another Kind of Love, Another Kind of Woman par John Mayall. Excellent, j'adore cet album. C'est Hard Road de 68. Et Another Kind of Love parce que c'est une autre façon d'aimer, mais ça, c'est un peu hypocrite. Et c'est une autre façon de nous aimer. Ils disent ouais, ouais, on va tout faire pour vous. Mais en fait, non, on va rien faire pour vous. Vous allez, on va s'emparer de ce que vous faites. Pour ne pas que notre contrôle change. Et donc là, comme je vous disais, Guattari parle souvent de la radio libre. Et là, il est évident, je cite, que nous ne pourrons changer la relation avec les médias. Avec ce mode de production de subjectivité, qu'à travers un minimum de réappropriation des moyens de communication, il ne s'agit pas d'espérer qu'un leader, qu'un parti autorise ou crée des radios libres. Surtout pas. Mais bien de commencer dès maintenant à créer nous-mêmes nos propres radios libres, car c'est aujourd'hui que la situation se présente avec cette possibilité. Et alors là, j'ai annoté « Vive Guattari !»« Vive Guattari !» Mais il le dit aussi, quoi. La radio libre est comme une espèce d'allumette que tu frottes et tout de suite, tout prend feu. Donc, il donne l'exemple au Brésil. Il suffit qu'il y en ait trois qui s'allument et il y en a des milliers d'autres qui suivent. Et alors se posent des problèmes à grande échelle, problèmes de législation. Et c'est ce qu'on voit au Pays de la Loire, parce qu'il n'y a plus de subventions, par exemple. De prise de position des partis politiques, de réaction des professionnels, comme ceux de la radio ou du journalisme. Bon, après, je pense que... Bon, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais des radios libres, mais bon. De coordination au plan technique et au plan matériel. C'est le type de problème que pose la question de l'autonomie complète des radios. Autonomie par rapport aux partis, syndicats, municipalités, etc. Ce qui le pose dès le début à grande échelle. Le problème, c'est que on est quand même vachement dépendant. Les radios sont dépendantes de l'État, hein, en quelque sorte, des Pays de la Loire, là, mais... Si les Pays de la Loire avaient fait une grosse économie, je ne sais plus son nom. Mais c'est pour dire, elle a des vues politiques autres. Après, tu vois, là, je ne sais pas qui c'est exactement, mais c'est celle qui décide de ça. Je sais pas, elle veut aller sur le banc des ministres, quoi, tu vois. C'est que comme ça. Ah ouais, moi, ma région, on a fait des grosses économies. On vous a donné plein d'argent pour que vous puissiez acheter des tanks. Construire des tanks, ouais, super. Mais bon, la culture, après... Bon. Oui. Bon, oui, c'est vrai, mais bon. Alors, bon. Bon. On va continuer quand même. On va pas se laisser abattre. Hein. L'immense machination, oui. Et donc, j'avais donc ça aussi. Et il est génial, ce livre. Et là, ouais, il parle de... Il revient sur ce que je disais avec Hollywood, quoi. La famille implosée, nous le savons déjà. ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle se déterritorialise à la même vitesse que le capitalisme mondial intégré, poussé d'ailleurs précisément par sa logique. Il en reste une répétition à vide de la cellule conjugale post-fordiste et ses personnages hollywoodiens, une certaine figure d'homme, une certaine figure de femme, une certaine hétérosexualité entièrement dépourvue de sens. Tu vois, on est dirigé par ça, par Hollywood, par exemple. Ils se servent de ça pour les publicités, tout ça. Ah ouais, on doit vraiment rentrer dans un schéma pour être facile à contrôler. Et c'est ce qui se passe, vraiment. On peut se l'avouer ou non, mais c'est plus fort que nous, en fait. Ça rentre en nous, quoi. Tu vois, les gamins qui regardent les écrans, mais oh, putain, putain, mais putain, quoi. Qu'est-ce que ça va donner, déjà, nous, enfin, des années 80? C'est... Même avant, peut-être, mais je pense qu'à l'année 80, c'est déjà assez fort. Hein. C'est là que ça a vraiment pris son envol. On est carrément dans la substitution de notre véritable présence, quoi. Raison. Mais non, on voit pas. Oh bah non, mais qui regarde la télé? Bah ouais, moi j'ai fait pareil à son âge. Bah ouais. T'as vu le résultat? Non? Regarde-toi dans le miroir. Bah ouais. On s'intoxique de familiarisme, on s'anesthésie à toute sensation du monde, bref, on s'endurcit. À l'autre extrême, on n'arrive plus à résister à la déterritorialisation et, plongé dans son mouvement, on devient pure intensité, une pure émotion du monde. Mais là, un autre danger nous guette. La fascination de la déterritorialisation exerce sur nous est dès lors ce qui peut devenir fatal. On y embarque comme une fin en soi et non comme une partie de processus de création de territoire sans lesquels on se fragilise jusqu'à se dissoudre parfois irrémédiablement. Entre ces deux extrêmes ou ces différentes manières de mourir s'esquissent maladroitement d'autres manières de vivre et tous ces cas de figure coexistent dans la vie de chacun de nous partout sur la planète. Et la déterritorialisation, c'est un terme inventé par Félix Guattari. C'est-à-dire que la déterritorialisation, il y a dans ce mot, comme il dit, il y a du bon et du mauvais. C'est vachement bien de s'évader. Ça c'est très bon, ça fascine. Mais c'est pas la fin, c'est pas ça. La déterritorialisation, c'est aussi politique. Finalement, la machination détruit l'aventure, ou plutôt l'avidité de paresse et le désir d'argent, quoi. L'avidité d'argent, mais aussi. L'avidité de paresse et d'argent. La définit autrement. Notamment par le biais de Hollywood. Par le biais de la manipulation qui intrinsèque. Pas intrinsèque, qu'est-ce que je dis ? Par la manipulation qui est là, quoi. Invisible. La machination détruit l'aventure. Ou plutôt, l'avidité de paresse et d'argent la définit autrement. L'aventure. Notamment par le biais de l'actualité. Par le biais d'Hollywood, je disais, par notre paresse, par... C'est utilisé. L'informatique est là, le numérique est là pour accomplir notre paresse. Ne rien foutre, rester chez nous, puis rien faire, puis regarder la télé, puis être bien.
Je russe tous les jours, actualité, philosophie, et je t'emmerde. Le mercredi en bimensuel, avec